Je suis un homme célèbre. La renommée claironne mon nom aux quatre coins du globe et la publicité faite à mon humble personne doit rendre jaloux tous ceux qui se donnent tant de peine pour faire parler d'eux. Jules Bonneau. Mille ans d'histoire. Le 21 décembre 1911, à Paris, le jeune Pierre Brasseur se promène avec sa mère lorsqu'il voit une voiture garée devant le numéro 150 de la rue Ordener. À cette époque, les automobiles sont encore rares et tous les passants admirent cette Delaunay Belleville vert-bouteille à filet jonquille qui se trouve juste en face d'une agence de la Société Générale. Mais personne n'imagine ce qui va se produire lorsqu'à 8h50, un encaisseur et un guichetier qui lui sert de garde du corps s'approchent de la banque avec une sacoche à la main. Aussitôt, deux hommes descendent de l'automobile, tirent deux coups de feu sur l'encaisseur, s'emparent de son sac et montent dans leur voiture. 60 ans plus tard, en 1972, Pierre Brasseur se souvenait encore de ce qui fut le premier hold-up motorisé de l'histoire, le premier des nombreux crimes de la bande qui, pendant 4 mois, allait terroriser la France entière, la bande à Bonneau.
J'étais là, et je regardais les gens passer. Et puis tout d'un coup, j'entends des coups de pétard, et puis un barouf terrible, puis des types en uniforme de banque qui sortent de la banque, là. Et puis des flics qui arrivent, et puis une autoroute des bines, qui tirent des coups de feu. Pour moi, c'était un western, j'étais ravi, mais j'allais cavaler la noix. Heureusement qu'elle est arrivée, qu'elle m'a pris par la peau des fesses. C'est le premier hold-up de la bande à Bonneau. J'avais 6 ans.
À la Société Générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande à Bonneau mit les voiles, en portant la sacoche du garçon payeur. Dans la deux dion mouton qui cachait les voleurs, Octave comptait les gros billets et les valeurs. Avec Raymond la science, les bandits en auto, c'était
la bande à Bonneau.
Frédéric Lavignette, bonjour.
Bonjour.
Alors la bande à Bonneau, on la retrouve dans un livre richement illustré que vous venez d'écrire aux éditions Fage, la bande à Bonneau à travers la presse de l'époque, car la presse, vous le rappelez, a joué un rôle considérable dans cette affaire qu'elle a montée en épingle. Cette affaire a fait la une des journaux pendant les 4 mois, n'est-ce pas, que la bande à Bonneau a sévi. Pourquoi cet intérêt pour ce qui n'est après tout qu'un hold-up parmi d'autres, Frédéric Lavignette?
Oh, c'est la succession d'événements que va mener la bande à Bonneau qui fait que la chose est exceptionnelle. L'affaire bande à Bonneau est exceptionnelle. En fait, dans cette histoire, tout s'est déroulé de façon surdimensionnée. Chacun des acteurs agit dans la mesure, dans la démesure. Alors que ce soit évidemment la bande ou les policiers, mais aussi la presse et le public. La bande, eux, ils étaient 35. C'est déjà quand même un gros réseau. Ils avaient à leur actif quelques actes un peu violents, même si ils étaient assez courants à cette époque. On agissait avec une certaine violence, utilisant le marteau pour défoncer des crânes ou bien l'arme. Mais eux, ils avaient quelque chose de plus ingénieux, c'était qu'ils utilisaient le progrès technique, et à savoir les automobiles. Donc, à partir de...
Il n'y en avait pas, il faut le rappeler, on est quand même au tout début du XXe siècle, il n'y en avait pas beaucoup, c'était un objet de luxe et réservé à quelques personnes. D'ailleurs, dans l'affaire de la rue Ordener, Bonneau et sa bande ont dû voler la voiture. Et pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, la police, eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Des vélos, des chevaux, des bicyclettes, au mieux, voilà, alors que les voitures, elles vont à 50-60 km/h.
Exactement, au mieux, elle a des vélos, mais elle n'a pas non plus de téléphone lorsqu'elle veut signaler le passage des bandits ou bien fermer les portes de Paris puisqu'elle veut éviter par exemple, que la bande ne s'échappe. Donc il y a quand même des subtilités que savent manier les bandits de la bande à Bono. Et puis en plus, ils sont assez rusés, hein. Ils savent très bien manœuvrer, fuir les bandits, s'esquiver. Et puis aussi, ils n'hésitent pas à être ironiques et à les narguer, notamment en envoyant un certain nombre de lettres à la presse.
Cette première affaire, ça n'a pas été terrible quand même, parce que ça rapporte quoi ? Ça rapporte 5000 francs, certes, mais surtout des titres aux porteurs qu'ils ne pouvaient pas revendre, d'ailleurs.
Ils ne pouvaient pas revendre, ils ont essayé. Alors, dès que l'événement que racontait Pierre Brasseur se produit, la rue Ordener, donc ils s'en vont en voiture, ils vont échouer leur voiture sur une plage à Dieppe, et ils vont essayer de suite après de négocier ces titres. Alors évidemment, ils trouvent une astuce, c'est de les liquider par le biais de la Belgique et puis aussi par la Hollande. Mais il se trouve que le passeur a bien du mal à les fourguer. Et donc, ils sont obligés de revenir avec ces titres. Et c'est à partir de là que les fins limiers de la police vont un peu démanteler la bande. Mais bon, c'est pas à cause de ça que tout va basculer.
Alors, ils reviennent donc à Paris, où deux d'entre eux, deux de la bande à Bono, Calmin, dit Raymond Lescience, et Octave Garnier, viennent se cacher quelques instants chez le directeur du journal L'Anarchie, Victor Kilbachiche, et sa compagne, qui s'appelait Rirette Frère-Jean, les deux désapprouvant l'usage de la violence, tandis que leur ami, Raymond Calmin, fait partie de ces anarchistes qui considèrent qu'elle est encore le seul moyen d'abattre la société bourgeoise.
Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Il ne faut pas que nous succombions à la tentation de l'acte pour l'acte, de la violence pour la violence.
Oh, c'est pas lui.
Un crime, un seul. Et nous ne sommes plus des anarchistes. Nous sommes des assassins.
La théorie. Toujours la théorie, encore la théorie. Et l'action alors ? Ce qu'il faut maintenant, c'est agir. Alors même la reprise individuelle, tu es contre. Ça fait pourtant partie de la doctrine, ça.
Raymond, ne nous payons pas de mots. Chaparder aux attelages, c'est pas de l'anarchie, c'est du vol à la tire.
Écoute, c'est toi qui affirmes que la propriété, c'est le vol. Va au bout de ta théorie.
Tu sais qui bâtisse ? Moi aussi, j'aime bien les bourgeois. Même les flics, je les aime bien. Mais au cimetière. Venez.
Ne laisse pas entraîner, Raymond, même par ton cœur.
Je ne veux plus voir les hommes à genoux. Nulle part. Et jamais.
Alors, ce qui a fait peur dans cette affaire de la bande à Bono, Frédéric Lavignette, indépendamment de l'usage de la voiture, de la violence dont elle a fait preuve, c'est que elle se réclamait, ou ils se réclamaient, ces gens-là, de l'anarchie. Hein. Il faut savoir que ça peut paraître surprenant parce que l'anarchie, ça fait belle lurette. Déjà, ça fait une vingtaine d'années depuis Ravachol qu'elle n'utilise plus la violence.
Oui. D'ailleurs, l'usage de la violence chez les anarchistes à l'époque de la bande à Bono, en 1911, 12 et 13, ça a été quelque chose de très discuté dans le mouvement. D'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce que Bono était réellement anarchiste ? Alors, lui-même le disait, lui-même a fréquenté les réunions libertaires, les causeries libertaires. Lui-même a été très actif lors de grèves dans les entreprises dans lesquelles il travaillait, les entreprises de mécanique, notamment à Lyon ou Saint-Étienne. Sa femme elle-même, qui avait été interrogée quelques jours après la mort de Bono par les journalistes, disait que effectivement son mari avait des propension à l'anarchie, il refusait l'autoritaire, il avait du mal avec tout ce qui était dominant, et donc il avait choisi une vie, une trajectoire, à savoir celle du refus du travail et non plus servir le bourgeois. Alors, après, il y a tout un débat qui s'est posé lorsque la rue Ordener s'est déroulée dans la presse anarchiste, dans le journal L'Anarchie que dirige Victor Kibalchich.
Qui sera connu sous le nom de Victor
Serge. Victor Serge et Rirette Maître Jean. Voilà, est-ce que, beaucoup des lecteurs d'ailleurs écrivaient, est-ce que finalement le fait de prendre un convoyeur de fonds une somme d'argent, ça sert l'anarchie ? Et est-ce que finalement, ce n'est pas récupérer de l'argent et s'embourgeoiser soi-même ? Alors, l'anarchie peut-être ne reconnaît pas Bono comme anarchiste, mais lui, je pense qu'il n'y a pas de doute, il est convaincu qu'il en est, quoi.
Vous parlez de Victor Serge, en fait, de Kyle Bachiche ?
Non, Bono. Ah,
de Bono, oui.
Bono se reconnaît.
Mais parce que Kyle Bachiche, lui, ça fait belle lurette qu'il y est plutôt hostile à ce moment-là, alors qu'il va y être mêlé. Ce qu'il y a, c'est qu'il les couvre, il ne veut pas les dénoncer. Il sera arrêté alors qu'il n'a participé à aucun des actes de la bande à Bono. Il y a Calmin, hein, le fameux Raymond à la science. Mais Bono, en tout cas, n'était pas très bien vu par Kyle Bachiche, semble-t-il. Écoutez, le portrait peu flatteur que faisait la compagne de Kyle Bachiche, Rirette Maître Jean. C'était 45 ans après, en 1957, qui comparait Bono à ces jeunes délinquants de l'époque qu'on appelait les Apaches.
Bono était un petit bonhomme assez râblé, avec une grosse moustache, des yeux un peu fuyants. Je l'ai connu très peu. C'était un type tout à fait le type de l'ouvrier vulgaire. Il n'avait pas cette teinte agréable qu'il y était en général dans les milieux anarchistes. Ni le vocabulaire, ni les manières, ni les allures générales. C'était un ouvrier d'usine, mais un ouvrier d'usine apache, ce qui n'est pas le cas des ouvriers d'usine généralement. Et je crois qu'il s'est lié assez rapidement avec Caroui, Garnier et Calmin. Calmin était une sorte d'animateur intellectuel, d'animateur de pensée. Il appelait Raymond la science. Ah oui, il avait lu beaucoup d'ouvrages scientifiques, ce qui ne lui avait pas fait de bien, parce que je crois qu'il les avait assez mal digérés.
Les bistrots du quartier de la ville 12, les barbillons trinquaient à la santé. T'as leurs photos qui décoraient sans trousse, et l'on chantait « Vive la liberté !» Ohé, les apaches, à nous les sages, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des roussins et pour le ventre des casseroles.
Et c'était Aristide Bruand en 1912, les Apaches, donc ces jeunes délinquants auxquels Rirette Maître Jean comparait Bono. Alors Bono et sa bande, que l'on voit d'ailleurs en photo avec des visages un peu patibulaires sous la couverture de votre livre, Frédéric Lavignette, avaient quand même des personnalités. Vous dites qu'ils étaient 35, mais parmi eux, il y en a qui se détachent. Il y a d'abord ce fameux Calmin, hein, Raymond, la science, qui est un personnage étonnant. On disait que c'était vraiment le plus dangereux de tous avec Bono.
Oui, ils étaient 35, mais c'est vrai qu'il y avait un noyau dur de 5-6 personnes vraiment déterminées. Donc, beaucoup de ces illégalistes, finalement, se rencontrent au siège de l'anarchie. Certains se connaissent déjà. Victor Kyle Bachiche connaît déjà Calmin, connaît déjà Caroui. Ils sont tous belges, donc ils se retrouvent donc au siège de ce journal qui siège à Romainville. Et Bono, lui, arrive en novembre 1911 à Paris. On ne sait pas trop ce qu'il va faire pendant un mois, avant, en tout cas, l'événement de la rue Ordinaire, qui est en décembre. Mais ils se retrouvent là, en tout cas, et sympathisent. Et très certainement, ils mettent en place une série de hold-up, à commencer par celui de la rue Ordinaire. Calmin est, c'est vrai, quelqu'un de très autoritaire, même s'il est petit, gringalet. Au procès, on dira qu'il a un teint de bébé rose, ce qui le fera beaucoup rire, d'ailleurs. Et on l'appelle Raymond la science, effectivement, comme le disait Rirette Maître Jean, parce qu'il a beaucoup lu de livres et s'en flattait. Alors, elle dit, certes, il ne les a pas tous digérés. La presse, à l'époque, mentionnait évidemment ce terme. Mais ce n'était peut-être pas le plus violent. Je pense qu'il y avait Octave Garnier, qui était un jeune homme d'une vingtaine.
18 ans, je crois.
Oui, oui, il avait 20 ans, je crois. Lui était fortement déterminé. Autant on pouvait dire que Bono avait un petit côté taiseux, fourbe, mais aussi violent. Autant, Octave Garnier, lui, n'avait aucun scrupule. Et il paraît que la vie humaine, pour lui, était quelque chose d'inutile. Et lorsqu'on était en opposition avec lui, il n'hésitait pas à utiliser le pistolet et le revolver. Ouais.
Autre personnage qui est assez massif, Dieudonné, également, qui a joué un rôle important dans cette bande.
Un rôle important, on va dire, peut-être le rôle de la victime. L'encaisseur, le convoyeur de fonds de la rue Ordinaire, lorsqu'il se fait tirer dessus, ne meurt pas. Il se fait tirer dessus, mais il ne meurt pas. Et c'est presque là le problème pour Dieudonné, il ne meurt pas, parce que ce pauvre Cabi va identifier Dieudonné comme étant son agresseur. Mais à la troisième reprise, les policiers lui montrent une première photo. d'un quelconque malfaiteur. Il dit « Ah oui, oui, c'est lui, je le reconnais ». Ensuite, on lui montre une deuxième photo. Il s'agit cette fois-ci de la photo d'Octave Garnier. Cabi, pareil, reconnaît son agresseur. Et enfin, une troisième photo, celle de Eugène Dieudonné. Là, cette fois-ci, il en est sûr, c'est bien le gars qui lui a tiré dessus. Et il se trouve que là, à partir de là, le pauvre Dieudonné va
qui sera le premier arrêté, d'ailleurs.
Va être dans les premiers arrêtés, va passer une certaine partie de sa vie en prison. On va le condamner à mort grâce à la clémence de Clémenceau qui est élu président de la République.
C'était Poincaré.
Poincaré, pardon.
Clémenceau était premier ministre. Pardon. Enfin, président du Conseil, on disait à l'époque.
Donc Poincaré le gracie en avril 1913. Et le pauvre Dieudonné va quand même vivre des années et des années de bagne avant de s'échapper.
Alors cela dit, quand même, cette bande, si elle a fait peur, c'est pas seulement parce que c'était ou non des anarchistes, c'est pas seulement parce qu'ils utilisaient l'automobile, c'est parce que après le hold-up de la rue Ordener, ils continuent. Alors, on les cite, on les voit bien dans le détail, commenté par la presse dans votre livre, Frédéric Lavignette. Il y a l'assassinat d'un retraité et d'une domestique à Thiers en janvier 1912. Les photos sont absolument abominables quand on les voit dans votre livre. Il y a également le meurtre d'un agent de police au passage du Havre, près de la gare Saint-Lazare, en février 1912. Il y a également le conducteur d'une voiture auquel on veut prendre justement son automobile, une De Dion-Bouton cette fois-ci, et avec laquelle le 25 mars, eh bien, la bande à Bonneau braque une autre agence de la Société Générale, comme s'il n'aimait que cette banque, à Chantilly. Là, vraiment, l'émotion est considérable à ce moment-là, Frédéric.
Voilà, exactement. Là, il y a un crescendo dans la violence qui fait que les autorités policières, déjà, sont interpellées par la presse qui, elle, réagit vivement en les ridiculisant une première fois. Là, ça, c'est à la suite de la rue Ordener. Ensuite, lorsque l'agent Garnier meurt, on réclame davantage d'armes. Il y a un conseil municipal exceptionnel qui est organisé pour développer des crédits, pour que les policiers soient munis de mitrailleuses certaines fois sur les automobiles, que les, comme on le disait tout à l'heure, que les téléphones soient développés, notamment dans les portes de Paris. Et ensuite, le crime de Montgeron, là, ça a été quand même la furie, l'indignation totale.
Là, c'est là où, effectivement, on tue deux personnes pour prendre leur voiture.
Voilà, sur la route de Montgeron, deux personnes sont interpellées à bord de leur De Dion-Bouton. Les bandits tirent sur le chauffeur, ils le tuent. Le passager qui accompagnait donc ce chauffeur, lui, est blessé. Il fait mine de mourir pour avoir la vie sauve. Et ensuite, les bandits montent à bord de cette De Dion et filent à l'opposé de Montgeron, c'est-à-dire à Chantilly. Et là, ils commettent, dans la Société Générale, un assaut où ils tuent effectivement deux autres personnes. Les obsèques sont grandiloquentes. Tout le monde est là. Toutes les banques s'associent au deuil collectif. C'est assez fascinant parce que la presse elle-même publie ses photos avec gravité. Et là, Lépine dit non, là c'est fini.
Préfet de police,
Le préfet de police, là c'est fini. On va les avoir. Effectivement, l'étau se resserre sur les bandits. À partir de là, il y a encore quand même quelques arrestations. André Soudy, l'homme à la carabine qui a participé à cet attentat, lui est arrêté à Berck. Édouard Caroui, après lequel on courait pendant des mois et des mois, lui aussi est arrêté. Bon, ainsi de suite. Et après, un événement fantastique se produit. On commence à localiser Bonneau.
Et avant surtout, c'est Calmin que l'on arrête. Calmin, Raymond Lescience, qui est arrêté, qui se trouve le 8 avril devant le sous-chef de la Sûreté Générale, Louis-François Join.
Vous nous tenez, non? Vous les voyez enfin, vos anarchistes? Hein? En chair et en os? Et en cage, par-dessus le marché? Hein? Les assassins, les monstres à tête humaine. Les buveurs de sang, c'est nous.
Vous parlez, Calmin. Mais les faits, les preuves sont là.
Permettez, examinez nos crimes. Vous trouverez un encaisseur, des flics, le sous-chef de la sûreté, quelques bourgeois, mais pas un ouvrier, pas un crève-la-faim. Oh oui, j'ai tué un sergent de ville. Et toi, combien de tonkinois? Et toi, combien de nègres, hein? Et toi, pauvre abruti, derrière cette petite machine à écrire, combien d'hommes t'as vu tabasser à mort ici, hein? Et leurs cris, comment tu les indiques? Avec des petits points d'exclamation? Allez, Gilbertillon, aux empreintes, avec les banquiers, hein? Avec les officiers, avec les présidents directeurs généraux, nous, on n'a rien à voir avec des gens comme vous.
Nous, on vous dit merde.
Et c'était Jacques Brel, hein, remarquable dans le rôle justement de Raymond La Science dans ce film qui nous sert un peu de fil conducteur, Frédéric Lavignette. Comment est-ce que tous ces hommes ont-ils été arrêtés? Par quel biais? On utilise, la police utilise beaucoup, pas seulement des moyens plus modernes, la voiture, les mitrailleuses, mais des indicateurs.
Oui, beaucoup de lettres de dénonciation ont été envoyées. Et surtout, après l'événement que nous avons évoqué à Chantilly, donc le hold-up de la Société Générale, là, une prime de 100 000 francs est proposée. Et les journaux mentionnent que dès le lendemain matin de l'annonce de cette prime de 100 000 francs, le chef de la Sûreté avait sur son bureau 300 lettres. Et au fil des jours, mais en l'espace de 3-4 jours, ce sont 1 000, 1 200, 1500 lettres qui arrivent quasiment par jour. Donc là, effectivement, il y a eu un répondant populaire assez réactif. Cela dit, parfois, il y avait beaucoup de lettres, de comme dit la presse, de fumistes. Hein. Mmh. C'était des choses un peu caricaturales. Hein. Certains concierges, par exemple, parce qu'ils en avaient appris certains locataires, les dénonçaient. Il y avait une femme qui, par exemple, voulait se débarrasser de son mari, a dit « En fait, mon mari, c'est Bono ». Et donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Mais il y avait aussi des procédés policiers très 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 subtils. Hein. On suivait les gens, on faisait des sièges permanents aux alentours de certains domiciles, et puis on achetait aussi des renseignements. Par exemple, Calmin que vous avez mentionné, qui a été arrêté donc avec Pierre Jourdan et Louise Hutto, qui étaient deux personnes qui l'hébergeaient. Donc, lorsqu'il a été arrêté ce dimanche 7 avril. Très certainement, on est remonté jusqu'à lui par l'intermédiaire de la femme, l'ancienne femme de Dieudonné. Il était tombé amoureux de cette femme et visiblement, elle aurait un peu vendu la mèche. Mmh. Et donc, à partir de là, tout s'écroule et la bande finit jusqu'à ce qu'on trouve enfin ce fameux Bono.
Alors justement, reste à ce moment-là, une fois qu'elle m'a arrêté, reste Garnier, Vatel et ce fameux Bono, comme vous dites, qui d'ailleurs entre-temps va tuer le numéro 2 de la police qui s'appelle les Joints. Alors là, émotion encore considérable. Bono, donc, qui va se cacher dans une maison de Choisy-le-Roi où la police le retrouvait le 28 avril 1912.
Chef, Bono est avec eux.
Sacré Dieu!
Au nom de la loi, rendez-vous! La villa est cernée!
Je suis un homme célèbre. La renommée claironne mon nom aux quatre coins du globe. Il y a de quoi rendre jaloux ceux qui se donnent tant de peine pour faire parler d'eux. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ce dernier moment est le nôtre. Chien de flic.
Et c'était la mort de Bono, donc le 28 avril 1912, incarné dans ce film par Bruno Kremer, qui dit quelque chose qui est parfaitement authentique. Au moment où il va mourir, où il est cerné, Bono, justement, dit « ça m'a rendu célèbre », etc. Ce que l'on vient d'entendre est parfaitement authentique. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça, au fond, la véritable motivation, sinon de toute la bande, du moins de Bono, hein, l'orgueil de devenir célèbre, ce qu'il est devenu en 4 mois. Toute la France le connaissait, c'était vraiment l'ennemi public numéro 1.
Oui, il y avait une certaine jubilation à avoir son nom et avoir sa photo sur les journaux. D'autant que les journaux, effectivement, comme vous le mentionnez, étaient tous surenchérissés dans l'information. Il n'y avait quasiment pas une journée sans laquelle le nom de Bono ne soit mentionné. Il fallait peut-être à la rigueur un événement exceptionnel comme le naufrage du Titanic ou l'éclipse de soleil pour qu'on occulte, ne serait-ce que provisoirement, la bande à Bono.
Petite parenthèse, parmi les journalistes justement que vous citez, dont on voit les articles dans votre livre, il y a une certaine Colette, Frédéric Lavignette.
Oui, une certaine Colette Willy qui assiste au siège de Choisy-le-Roi et donc à la mort de Bono. C'est un article, mais vraiment exceptionnel, parce qu'elle fait ça avec humour. Et ce qu'elle décrit, ce n'est pas tant l'acharnement de la police sur un pauvre gars qui est retiré dans un garage.
Enfin, un pauvre gars, il s'est sacrément défendu. On le voit sur les couvertures des journaux, il s'enroule dans un matelas pour que les balles ne l'atteignent pas. Enfin, c'est vraiment très impressionnant.
Oui, c'est très très impressionnant. Et Colette, elle décrit justement la foule qu'il y a autour.
Oui, ça c'est extraordinaire.
Et qui est complètement excitée, qui est en furie, qui ira même jusqu'à tabasser le cadavre de Bono que l'on va mener dans un taxi pour l'Hôtel-Dieu.
La foule est une véritable armée. Je crois qu'il y avait 2000 hommes pour prendre un seul homme, en l'occurrence, qui était Bonneau. Mmh,
exactement. Alors, on convoque, ça s'est fait par crescendo. Et évidemment, au tout début, il y a 3-4 policiers qui repèrent un individu suspect. Peut-être que ça serait Bonneau. Eh bien oui, vérification faite, c'est lui. Et progressivement, tous les services de police arrivent. Les journaux dans le quartier du Croissant à Paris sont alertés de l'information. On l'a repéré, Bonneau est à Choisy. Et donc des éditions spéciales sont tirées. Les autobus, les tramways, les calèches se sont prises d'assaut. Il paraît que les chauffeurs de taxi se font cette fois-ci des journées assez considérables. Et donc tout le monde y va à pied. On traverse le bois de Vincennes, on passe par le 13e. Et ce sont carrément des théories, des processions de gens qui vont assister à la mort de Bonneau. Et donc, toute cette foule est très, très agitée et très surexcitée.
Reste deux survivants quand même. Il y a Garnier et Vatel qu'on va retrouver.
Vallée, oui.
Et Vallée, qui ont retrouvé le 14 mai et d'ailleurs achevé de la même manière à Nogent-sur-Marne. Et puis alors, il reste des survivants, ceux qui ont été capturés. Alors là, il y a eu ce procès qui met vraiment un point final à cette affaire, même si on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Le procès qui a lieu en avril 1913 et où là, Soudy, Calmin, Meunier sont condamnés à mort. Calmin, d'ailleurs, va mourir absolument de manière extraordinaire, très bravache.
Oui, oui. Il va sortir du convoi cellulaire et va apostropher la foule, un peu l'allure altière, en disant « Ah, c'est beau, un homme qui meurt ». Et après, chacun mourra dans la dignité quand même, dignement, sans arrogance, sans cri. Tout est exécuté très rapidement. Et cela dit, il y a une foule là aussi. Autant au siège de Choisy, la foule était considérable, autant celle de Nogent qui a duré 9 heures, hein, 9 heures pour tuer deux hommes, c'était... On estime à 100 000 personnes quand même qui seraient venues au pied du viaduc pour assister à la mort de Garnier et de Vallée. À l'exécution qui a lieu le 21 avril 1913, ben c'est pareil. Il y a beaucoup d'anarchistes qui sont là. On entend certains cris « Vive l'anarchie, vive Bonneau !» Oui, oui, c'était... Oui. Et ces personnes-là sont évidemment arrêtées. Mais il y a aussi, comme toujours, ces populations qui viennent là pour se rincer l'œil. Et c'est ça qui grisait autant Bonneau d'être célèbre, et même Carouy qui appréciait justement cette notoriété lui aussi.
Dieudonné, lui, a été condamné à mort, mais il a été gracié. On va le retrouver à Cayenne. Il a eu un destin étonnant. Il y en a un qui a eu un destin tout à fait extraordinaire, c'est Kibatchiche, parce que bien qu'il n'ait pas été mêlé directement à cette affaire, il n'était pas de la bande, même s'il a couvert la bande, même s'il connaissait tous ses membres, il est condamné à 4 ans de prison. Et on va le retrouver où ? En Russie, pendant la Révolution russe. C'est peut-être le destin le plus étonnant de cette histoire de la bande à Bonneau, Frédéric Lavignette. Rappelez-nous ce qu'il est devenu, Kibatchiche, devenu Victor Serge. Hein.
Voilà, il devient Victor Serge. Peu après sa libération, il file en Espagne. Il y reste quelque temps, il en revient. Après, il veut se produit cette révolution russe et il se dit c'est absolument là-bas qu'il faut que j'aille. Mes parents voulaient que ça se soulève, qu'on en finisse. Et donc lui-même va retrouver les rangs de la révolution russe. Et peu à peu, il se rapproche de Trotsky, ce qui lui en coûtera beaucoup, parce que Staline...
Il a même été le patron du Comintern.
Oui, hein. Voilà.
Et puis alors, il est persécuté par Staline. Il va mourir en 1947 en exil au Mexique.
Voilà, il va finir quelques temps dans les camps sibériens. Et puis après, il s'en revient. Déjà, il fait un petit passage en France et en Europe. Et puis après, il s'en va finir sa vie au Mexique et il y meurt en 1947.
Merci Frédéric Lavignette. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « La bande à Bonneau » à travers la presse de l'époque. C'est publié aux éditions Fage. À lire également « Chronique du Paris Apache » publié au Mercure de France dans la collection « Le temps retrouvé ».« Mort aux bourgeois sur les traces de la bande à Bonneau » de Renaud Tomaso publié chez Larousse dans la collection « L'histoire comme un roman ». Vous avez pu entendre des extraits du film « La bande à Bonneau » de Philippe Forastier avec Bruno Kremer dans le rôle de Bonneau et Jacques Brel dans celui de Raymond Lascience, disponible en DVD aux éditions Cévennes. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christian Thibaudeau et Yann Bouillot, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le premier dieu des Romains, Jupiter.